Radio Kapi.
Le journal, Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité, lancement ce lundi à Kinshasa du programme Sino-Congolais renégocié. Pour l'occasion, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde parle d'un nouveau départ dans la gestion harmonieuse des activités et cela en vue de léguer aux Congolais des infrastructures d'intérêt général. À deux jours du verdict du procès de Stanley Boujakera, le président de l'UNPC Kinshasa plaide pour un soutien total de la corporation à ce journaliste détenu à la prison de Makala. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ce sera n'importe quel autre journaliste, dit Jean-Marie Kassamba. Notre invité, c'est la spécialiste en santé publique, membre de l'Association des femmes médecins du Maniema. Docteur Fatouma Abdoulou parle des difficultés auxquelles sont confrontés ces jours-ci les membres de son association à pied d'œuvre à Kindu. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons votre journal par une page économique. La relance du programme Sino-Congolais doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse des activités en vue de léguer aux Congolais des infrastructures d'intérêt général. Déclaration faite ce lundi à Kinshasa par le Premier ministre congolais lors du lancement du programme Sino-Congolais dont la renégociation est intervenue la semaine dernière. Les propos de Jean-Michel Samalukonde Kenge ont été recueillis par Paul Matendo.
Mesdames et messieurs, cette renégociation marque un nouveau tournant pour la relance des activités du programme Sino-Congolais. Elle recommande à tous et à chacun une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays. Et je recommande à la PCSC de s'appuyer sur cette expérience du programme Sino-Congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration et en multiplier, bien sûr, en tenant compte de l'accompagnement de toutes les parties prenantes. Ceci nécessite que la PCSC puisse pleinement de toutes ses prérogatives jouir vis-à-vis des partenaires concernés. Cette relance voulue par le chef de l'État doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse du programme Sino-Congolais, dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêt général et de qualité, et ce qui implique une gestion efficiente qui en découle.
Le Bureau central de coordination BCECO a adressé ce week-end une mise en demeure à Toa Investment, l'entreprise qui exécute les travaux d'entretien sous la route qui va de Kananga à Kalambambouji. Objectif visé par le directeur général du BCECO, pousser cette entreprise de construction à reprendre les travaux après 3 mois d'arrêt. Jean-Mabi Moulumba rappelle que l'entreprise Toa Investment doit justifier l'utilisation de 9 millions de dollars reçus du gouvernement central. Il s'est confié à François Kadima.
Et sous la route, nous n'avons presque pas vu les engins. Tout le monde connaît les engins, nous avons la liste des engins que l'entreprise avait amenés et qu'on avait répertoriés. Nous, au niveau de BCECO, nous avons encore invité cette fois-ci le directeur général de l'entreprise Toa, ainsi que les responsables du bureau à surveillance BK qui est basé à Kinshasa pour faire le point sur la situation. L'entreprise n'ayant toujours pas repris les travaux, nous sommes réunis avec la FEC nationale qui nous a invités. À ce jour, BCECO a mis l'entreprise en demeure, donc nous avons adressé une mise en demeure de reprendre les travaux. L'objectif, ce n'est pas de faire partie de l'entreprise. Parce que si on fait partie de cette entreprise, ça va nous prendre encore 8 mois pour faire venir une autre entreprise. Entre-temps, la route va se dégrader davantage. À ce jour, Toa a reçu 9 millions de dollars pour pouvoir travailler. Donc on a commencé malheureusement, Toa a démarré ses travaux en mars 2023. Mais les premiers paiements sont tombés en septembre 2023, à septembre-octobre. Le gouvernement a pu réunir 9 millions qu'on a mis à la disposition de Toa. C'est soit ces 9 millions justement que nous voulons que Toa justifie.
Notez qu'aucune réaction n'est enregistrée jusque-là du côté de l'entreprise Toa Investment. Revenons ici à Kinshasa et en plus bref, où un immeuble de 6 étages en construction s'est effondré ce matin sur l'avenue Malembankoulou, non loin du rond-point Safrikas, au quartier Sosimat, dans la commune de la Gombe. Les responsables du chantier étaient absents. Seuls les passants et des voisins inquiets observaient l'événement. Le bourgmestre de la commune est venu faire le constat. Cet incident relance le débat sur la problématique des constructions dans la ville de Kinshasa où plusieurs immeubles sortent des terres dans presque toutes les communes de la capitale. Chacun voulant ainsi rentabiliser son espace, petit soit-il, avec possibilité d'y faire louer des locaux. Justice à présent, à 48 heures du verdict du procès de Stanny Boujakera, les organisations des médias congolais plaident pour un soutien total de la corporation à ce journaliste détenu à la prison de Makala. Ces organisations professionnelles l'ont dit ce lundi au cours d'un point de presse. Le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Kinshasa, invite les hommes et femmes des médias à soutenir leurs confrères en difficulté. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ce sera n'importe quel autre journaliste, dit Jean-Marie Kassamba au micro de Greta Lulendo.
Suite à l'arrestation que nous jugeons arbitraire, injuste, de notre confrère Stanislas Boujakera, dont le verdict risque d'être dangereux ce 20 mars, Kinshasa, au nom de toute la presse de Kinshasa, y compris les correspondants des médias internationaux. Je nous invite à une grande mobilisation de maintenant pour le soutien à notre confrère. Chacun dans son média, chacun dans son espace, doit sensibiliser à la fois ici au Congo et à travers le monde pour que Stanislas Boujakera soit libéré, qu'il soit tout simplement relaxé ce 20 mars. Je vous invite à venir très nombreux ce mercredi à la prison centrale de Makala. Assister à ces verdicts. Et je vous demande d'être mobilisés pour la suite des événements. Quelle que soit l'issue, pour nous, Stanislas Boujakera est un innocent qui est victime et que nous devons soutenir coûte que coûte.
Et parmi ces organisations professionnelles, il y a Journalistes en danger, l'UNPC, l'Union de la presse du Congo, l'Association des entreprises audiovisuelles privées, l'Association des éditeurs, l'Union des femmes des médias, l'Association des médias d'information en ligne et Journalistes en action. Autre nouvelle en plus bref, restaurer la peine de mort en République démocratique du Congo, c'est vouloir résoudre un problème en créant un autre. Propos tenu ce lundi à Kinshasa par Prince Epengé. Ce cadre de la Mouka affirme à Radio Kapi qu'un régime incapable de garder en prison ceux qui volent les millions de dollars ne sera pas capable d'exécuter les infiltrés. Il redoute que les opposants politiques et les membres des mouvements citoyens soient ceux qui paieront le lourd tribut de cette mesures gouvernementales. Dans l'actualité, il y a également la suspension à Bukavu des activités dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire du Sud Kivu. C'est suite à une grève de 2 semaines entamée ce lundi par les enseignants et le personnel administratif. Ils réclament le paiement de leur salaire. À Bukavu, la correspondance d'Emmanuel Elmejou Kabedi.
La grève dans les établissements supérieurs et universitaires publics du Sud Kivu est générale et sèche. Elle est contenue dans une déclaration rendue publique le vendredi 15 mars dernier. Madame Brigitte Akonkwa, du Syndicat national des chefs de travaux et assistants.
Oui, nous avons déclenché la grève 48 heures après le lancement du préavis des grèves qui avait aussi pris 48 heures. Et cette grève, c'est par rapport au retard de paiement. Jusqu'au 15 mars, notre employeur n'avait pas encore payé les établissements supérieurs et universitaires. C'est ainsi que les syndicats des différents établissements du Sud Kivu. Nous avons remarqué que c'est devenu vraiment très récurrent, le retard des paiements, et c'est ainsi que nous sommes entrés en grève. C'est une grève de 14 jours renouvelables, mais en général, la grève a été suivie par tous les enseignants. C'est tous les établissements qui sont concernés.
Pendant ces temps, aucune activité académique ne se déroule dans les établissements publics du Sud Kivu en grève. Les corps statutaires de l'enseignement supérieur et universitaire du Sud Kivu réclament aussi la mécanisation et paiement du personnel, nouvelles unités non encore payées. Emmanuel Elamejoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Partons maintenant pour la province de l'Ituri où les activités socio-économiques étaient paralysées ce matin au quartier Nyakasanza dans la ville de Bunia. Des fidèles catholiques en colère ont dénoncé le cambriolage hier soir du bureau de leur paroisse par des bandits armés. Boutiques et magasins sont restés fermés pendant quelques heures. Les manifestants ont été dispersés par la police. Pour en parler, retrouvons à Bunia Ezekiel Mouzalia.
Fidèles de l'église catholique et des jeunes du quartier Nyakasanza dans la ville de Bunia en Ituri ont exprimé leur colère ce matin. À l'origine de ces mécontentements, le cambriolage dans la nuit des dimanches à ce lundi du bureau du curé de la paroisse par des bandits armés. Selon des sources locales, un groupe d'hommes munis d'armes à feu a réussi à entrer dans le bureau du curé après avoir cassé la fenêtre. Tous les objets trouvés à l'intérieur ont été saccagés. Une importante somme d'argent aurait été emportée. Certains chrétiens très remontés parlent de tentatives d'assassinat de leur curé. Ils ont brûlé des pneus à l'entrée de l'église. Plusieurs boutiques, magasins et maisons de commerce ont fermé par crainte des débordements des manifestants. La police est intervenue rapidement avec des tirs de sommation pour les disperser. Dans la foulée, un conducteur de taxi-moto a été blessé par balle et transporté à l'hôpital. Sous les chocs, le responsable de la paroisse de Nyakasanza a réuni d'urgence les fidèles et les a appelés à la retenue. Et ce, en attendant les conclusions de l'enquête qui a été ouverte d'après le commandant vide de la police pour identifier ces malfrats pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Non loin de là, au Nord Kivu, 5 déplacés sont décédés depuis leur arrivée à Kanyabayonga. Le bourgmestre de cette commune affirme à Radio Okapi que ses administrés ont fui récemment les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Chrysostome Kasereka plaide pour leur assistance. Il a été joint par Guylaine Kassassia.
Pour le moment, les déplacés sont à 15 362 ménages. Depuis que les déplacés sont là, il y a 5 décès à enregistrer suite à la famine, et parmi lesquels un garçon de 15 ans. Les familles d'accueil se retrouvent à difficulté, surtout que la vulnérabilité a un taux très élevé, car la population est toujours chassée de leurs champs se trouvant à proximité du parc national de Virunga, ce qui entraîne une pauvreté. Alors, avec la taille des familles initiales qui se fait augmenter par les déplacés dans les familles d'accueil, ça devient le pire. Les uns sont dans les sites et surtout ceux qui n'ont pas de famille à Kanyabayonga. Mais la plupart se retrouvent dans les familles d'accueil. À partir d'hier samedi 16 mars 2024, le gouvernement est en train de les assister à haricots, farine de maïs, savon, sel de cuisine, du riz, mais avec une quantité qui ne peut pas couvrir les deux bouts du mois.
Et dans la commune voisine de Kirumba, l'autorité locale parle aussi d'un décès parmi les déplacés. Nord Kivu, encore le Mwami Nyamula Kakinda, chef de la chefferie de Bwito dans le territoire de Rutshuru, appelle au rétablissement rapide de la paix dans son entité coutumière. Cette requête a été formulée à Goma à l'issue de l'audience lui accordée la semaine dernière par le gouverneur de province Peter Chirimwami. Il a rappelé que 90% de sa chefferie sont occupés actuellement par des rebelles du M23 et l'armée rwandaise. C'est ce qui justifie le déplacement de beaucoup d'habitants. Il s'est confié à la presse du gouvernorat.
De notre passage avec l'autorité provinciale, nous avons passé à revue la situation sécuritaire de Bwito. Nous lui avons dit que c'est une chefferie qui compte 7 groupements, 34 villages. Si c'est 34, il ne reste que 3 dans le groupement de Kanyabayonga. Les villages de Vichoubi récemment pris par le RDF M23. Nous lui avons passé aussi la situation socio-humanitaire de ces déplacés qui se trouvent dans le Grand Nord à partir du groupement Kanyabayonga, la commune de Kanyabayonga, Kaina, Kassé, Nala Vermemelbert. Nous lui avons signifié comme ces déplacés n'ont pas de soutien là qu'ils sont. Nous n'avons pas oublié aussi les chefs coutumiers qui sont à déplacement aussi à Gome, et qui n'ont pas quoi faire, surtout la prise en charge, et comme toutes les entités sont déjà sous contrôle de ces ARDF.
Même son de cloche dans la chefferie voisine de Bouicha, où 6 groupements sur 7 sont actuellement occupés par les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise, selon Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile locale. Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, 2 morts, 27 blessés et d'importants dégâts matériels. Bilan provisoire d'une pluie diluvienne qui s'est abattue ce week-end sur les villages de Binumbili et Tchabangwa dans le groupement de Meya, territoire de Pangui dans la province du Maniema. Les sinistrés appellent à l'aide. C'est ce que nous explique à Kindu Florence Kizalunga.
Selon le chef adjoint du village Binumbi, situé à 45 km de Kindu, cette pluie a causé la mort de 2 enfants, 27 personnes blessées, une centaine de maisons écroulées, 9 églises, un poste de santé et les bureaux administratifs du groupement tombés. Agnassi Kialelo a fait savoir que les écoles ne sont pas épargnées de ces dégâts. Les députés provinciaux élus de Pangui appellent à une intervention urgente aux autorités et aux humanitaires. Victor Kikuni Sombenyama.
Il a plu abondamment, comme vous le savez tous, et qu'après la pluie, il y a eu beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler aux humanitaires, rappeler aux hommes de bonne volonté de pouvoir venir à rescousse la population du territoire de Pangi en difficulté. Particulièrement, j'ai fait allusion ici au village 45 km de Binumbi, et puis je vois Tchabangwa. Voilà pourquoi je viens ici solliciter une fois de plus, n'est-ce pas, l'intervention de l'État d'abord, des autorités provinciales, pourquoi pas des hommes de bonne volonté, afin de venir à rescousse à cette population qui passe nuit à la Belle Étoile. C'est au-delà d'une centaine de personnes qui sont sinistrées. Imaginez ce que ça fait.
Signalons que suite à ces vents violents, les arbres sont tombés de part et d'autre de la route, empêchant ainsi les passages, a conclu ce chef du village. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Nigeria, 100 personnes ont été enlevées au nord-ouest du pays lors des deux attaques distinctes dans l'état de Kaduna où plus de 200 élèves avaient été kidnappés. Les autorités locales ont affirmé ce matin que les assaillants ont enlevé 87 personnes hier soir dans la localité de Kajuru. Une source onusienne et un ancien fonctionnaire local ont déclaré à l'AFP que 16 personnes avaient été enlevées samedi soir dans un village voisin. Et puis au Niger, la junte militaire au pouvoir a dénoncé ce lundi matin l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis d'Amérique voici 12 ans. Il s'agit d'un revers pour Washington qui dispose déjà d'une base aérienne de premier plan dans la ville d'Agadez.
L'invité.
Notre invité, c'est la spécialiste en santé publique, membre de l'Association des femmes médecins du Maniema. Docteur Fatouma Abdoulou parle des difficultés auxquelles sont confrontés les membres de sa corporation à pied d'œuvre à Kindu. Elle s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Fatouma Abdoulou, bonjour.
Bonjour madame.
On peut connaître la situation de la femme médecin dans la province du Maniema aujourd'hui, ou soit dans la ville de Kindu en particulier.
La situation de la femme médecin dans la province du Maniema et dans la ville de Kindu en particulier. Nous sommes plus de 80 femmes médecins, mais parmi ces femmes médecins, il y a aussi des spécialistes. Nous sommes à 12. Il y a des spécialistes en santé publique, il y a des spécialistes en gynéco-obstétrique. Et parmi ces femmes médecins, il n'y a aucune femme qui est placée au poste de responsabilité dans le secteur santé. Nous avons dans la province du Maniema 18 zones de santé, 18 hôpitaux généraux de référence, 13 coordinations de santé, 6 bureaux à la DPS. Pour tous ces postes, il n'y a aucune femme qui est représentée.
Avez-vous déjà mené des enquêtes pour savoir la cause? Qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes médecins n'occupent pas des postes de décision?
Nous savons que les postes de décision aujourd'hui est fonction de plusieurs problèmes. Et surtout, comme nos députés se partagent des postes, c'est ça d'abord donc la première cause. Nos députés provinciaux se partagent les postes. Et quand nos députés provinciaux se partagent les postes, ils ne songent pas aux femmes. C'est ça la grande cause.
C'est qu'on comprend que les postes au niveau de la santé, ce sont des postes politiques. Et pourquoi, vous les femmes médecins, vous n'êtes pas aussi politiques?
Bon, ça dépend. De femmes aussi, il y a des femmes politiques. Je peux prendre l'exemple du docteur Zamouda qui était médecin chef de zone. À l'actuelle affectation, on a enlevé les notes de docteur Zamouda parce qu'il n'y avait que la seule femme qui était représentée à ce poste-là. Mais à l'actuelle affectation, on n'a pas pu songer aussi aux femmes.
Et nous voyons les femmes médecins à la rue. C'est une façon pour vous de crier très haut aux autorités?
À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme, ces activités étaient prévues. On avait prévu la marche, on avait prévu aussi les campagnes de sensibilisation des jeunes filles dans des écoles.
Mais pourquoi vous marchez?
Nous marchons pour montrer nos indignations, pour montrer nos mécontentements en rapport avec les affectations qui se font dans notre province. Et en rapport avec ça, nous avons aussi établi une note de plaidoyer que nous avons adressée au gouverneur de province et nous avons réservé une copie auprès de l'Assemblée provinciale. Nous avons aussi réservé une autre copie à la société civile.
Qu'est-ce qui est contenu dans cette lettre, madame?
Ce qui est contenu dans cette lettre, comme je l'ai dit, c'est le mécontentement en rapport avec les affectations des médecins dans notre province. Et nous avons aussi donné des recommandations en rapport avec ce qui se passe dans notre province.
Et parmi les recommandations?
Parmi les recommandations, nous demandons aux autorités compétentes de placer aussi les femmes dans les postes de prise de décision. Nous voulons voir les femmes occuper les postes des médecins chefs de zone. Nous voulons voir les femmes occuper les postes des médecins directeurs et des coordonnatrices de santé. Nous voulons aussi voir les femmes occuper les postes de chef de bureau de la DPS.
Mais vous voulez occuper les postes, vous-même vous avez dit bien avant que ce sont des postes politiques. Et pourquoi vous ne voulez pas aussi adhérer dans des partis politiques et pour bénéficier de ce que les autorités aujourd'hui font?
Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas nous adhérer aux partis politiques que nous ne pouvons pas être représentés. Nous lançons notre cri d'alarme à notre autorité compétente qui est le gouverneur de prendre en compte nos revendications. Nul n'ignore que la santé est politique. Et comme la santé est politique, nous ne sommes pas obligés d'être dans des partis politiques. Nous avons étudié pour soigner les malades, nous avons étudié pour d'autres activités et pas nécessairement être dans les partis politiques. Nous avons toutes les compétences. Je vous ai dit qu'il y a des médecins spécialistes, il y a beaucoup de médecins généralistes qui ont des compétences de gérer les zones de santé, les coordinations, qui ont les compétences de gérer les hôpitaux généraux de référence. Et nous ne serons pas derrière les politiciens pour occuper les postes politiques.
Mais madame, ce problème n'est pas seulement au niveau provincial. Votre plaidoyer, vous l'avez fait seulement au niveau provincial. C'est un problème qui est aussi au niveau national.
Oui, par la même occasion, nous lançons notre cri d'alarme aux autorités tant nationales qu'internationales pour qu'ils puissent voir la situation de la femme dans notre province de Maniema. Ce n'est pas comme dans d'autres provinces.
Docteur Fatouma Abdoul, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était l'invité de Radio Capi, la spécialiste en santé publique, membre de l'Association des femmes médecins du Maniema. Docteur Fatouma Abdoulou a été interrogée à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information coordonnée par J.D. Bilanda sous la supervision éditoriale de Pele Kipela Mondo.